Chers auditeurs, bonjour à tous et à toutes. Bon, ça fait un petit moment, plus d'un mois, qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode de Chansons d'Histoire. J'espère que vous ne m'avez vraiment pas oublié. Alors moi, c'est Louise, et je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode. This is the largest group of people ever assembled in one place.
I have a dream. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ich bin ein Berliner.
Pour aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps jusqu'aux années 50-60 aux États-Unis, lors de la ségrégation raciale subie par les Afro-Américains. Cette période a été l'essor de nombreux protest songs et il était pour moi impensable de ne pas consacrer un épisode sur l'un d'eux. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Et tout de suite, nous allons revoir le contexte sur ce qui se passait en ces temps-là, aux États-Unis. Depuis la colonisation de l'Amérique, mais surtout depuis le 19e siècle, les États-Unis avaient établi un État avec un système institutionnalisé de discrimination et de séparation raciale. Ainsi, les citoyens afro-américains vivaient avec beaucoup de contraintes et de restrictions face aux privilèges des citoyens blancs, notamment à cause des lois Jim Crow, établies de 1877 à 1964. La population discriminée vivait donc dans des quartiers insalubres, à l'écart, et n'avait pas le droit de fréquenter certains lieux, devait étudier dans des écoles séparées, qui avaient une éducation avec trop peu de moyens, donc inférieure. Nous pouvons citer ici le célèbre et triste exemple de Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus de la ville de Montgomery, en Alabama. En effet, les personnes noires n'avaient pas le droit d'être assises dans les transports en commun. Il existe malheureusement beaucoup d'autres lois qui ont été subies par cette population. Et il ne faut pas oublier que les Afro-Américains, en plus de l'ensemble de ces interdictions, subissaient de la violence verbale et physique, ce que nous pouvons constater avec de célèbres massacres, comme le massacre de Tulsa en 1921, ou de Rosewood en 1923, où des hommes noirs étaient accusés à tort pour des agressions et des luttes dégénérées avec le meurtre de plusieurs Afro-Américains par des suprémacistes blancs américains. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur la période des années 50 et 60 où des luttes organisées sont nées et où le système institutionnel de ségrégation a pris fin après plusieurs lois. Dès les années 50, le mouvement des droits civiques a été marqué par des actions directes, des manifestations pacifiques, des litiges judiciaires et des efforts législatifs pour mettre fin à la ségrégation raciale et garantir l'égalité des droits. C'est dans ce moment justement que sont apparues de célèbres figures de lutte, et je suis sûre que vous en connaissez certaines, comme Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X ou Angela Davis. C'est dans ce mouvement que les choses vont avancer, avec des moments historiques comme avec la marche vers Washington pour le travail et la liberté en 1963, où justement Martin Luther King a prononcé son célèbre discours, et là on peut tous le dire en cœur, « I have a dream ».
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream.
C'est ainsi qu'en 1964 et 1965 sont établies les lois sur les droits civiques et le droit de vote, interdisant la discrimination raciale dans les établissements publics et dans l'emploi et abolissant les obstacles juridiques et pratiques qui empêchaient de nombreux Afro-Américains de voter et garantissant ainsi le droit de vote pour tous les citoyens américains. Malheureusement, malgré la fin du système et l'arrivée de lois en faveur d'une plus grande égalité dans le pays, le racisme persiste avec violence. Et la lutte continue avec de nouveaux mouvements et de nombreuses protestations dénonçant trop peu de changements. Nous y arrivons, les protestations en musique de la situation raciale des États-Unis. De très nombreux artistes avec de très célèbres chansons ont traité du sujet. Nous pouvons retrouver parmi eux James Brown avec son titre « Say it loud, I'm black, I'm proud », sorti en 1968. Ou encore Sam Cooke avec son titre « A change is gonna come », sorti en 1963. Mais aujourd'hui, Nous allons parler d'une chanteuse noire américaine, sûrement l'une des plus célèbres ayant existé, Nina Simone, virtuose de la soul et du jazz.
It's a new life for me. And I'm feeling good.
Née le 21 février 1933 de son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, Nina Simone a vécu son enfance au sein d'une famille afro-américaine de Caroline du Nord. Très rapidement, elle se découvre une passion pour la musique, mais ne parvient pas à accéder à des écoles de musique reconnues à cause de la ségrégation, justement. Mais à la fin des années 50, la chanteuse parvient à se faire connaître et sort son premier album, Little Girl Blue. L'artiste va ensuite enchaîner beaucoup de succès.
Put a spell on you. Cause you're mine. I wonder what's wrong with baby. My baby is chaos for love. Just a soul whose intentions.
Rapidement, Nina Simone va se révéler comme une militante de la cause noire américaine en appelant à la lutte par le combat. Son désir d'égalité et de liberté va se retrouver dans plusieurs de ses chansons, dont celle que nous apprêtons à analyser. Désolée d'avance pour mon accent et le titre est assez long, mais c'est I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, sorti en 1967. C'est sur ces premières notes de piano entraînantes que démarre cette chanson. Formée de plusieurs couplets, la chanson ne contient pas vraiment de refrain et Nina Simone démarre tout de suite avec l'anaphore « J'aimerais, I wish » qui va guider toute la musique.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me.
Je cite: j'aimerais savoir ce que ça fait d'être libre. J'aimerais pouvoir briser toutes les chaînes qui me retiennent. Ces dernières paroles rentrent directement dans le cœur du sujet avec la notion de liberté. Nous pouvons comprendre le sentiment que la chanteuse transmet au nom de la communauté afro-américaine en les décrivant comme enchaînés et donc retenus de vivre librement leur vie comme ils l'entendent. Nina Simone poursuit sur une autre idée qui, elle, vise à la liberté de parole.
I wish I could say all the things. And I should say I'm loud, say I'm clear for the whole round world to hear.
Je cite: j'aimerais pouvoir dire toutes les choses que je devrais dire, haut et fort, pour que le monde entier entende. Dans ces phrases, nous pouvons retrouver la figure militante de Nina Simone. Pour rappel, la chanteuse se plaçait en faveur de la lutte par le combat, allant à l'encontre de ce qu'encourageaient d'autres figures comme Martin Luther King. Mais dans tous les cas, nous pouvons estimer un engagement certain de sa part. Et c'est ce que nous pouvons interpréter quand elle parle de se faire entendre par le monde entier. Ici, il y a un peu comme l'idée de faire savoir la vérité et de faire comprendre ce qui se passe pour la population noire américaine. Mais au-delà d'une idée de lutte, cette chanson vise aussi à exprimer le sentiment d'unité, d'amour et de paix que nous pouvons retrouver dans les paroles suivantes.
I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart.
Je cite: j'aimerais pouvoir partager tout l'amour qui est dans mon cœur, enlever toutes les barrières qui nous séparent. Il est assez pertinent de penser qu'ici, bah, la chanteuse elle exprime le souhait d'un monde pacifique où tous seraient égaux et aimants les uns envers les autres. Cette idée allant pourtant à l'encontre de sa position favorable à la lutte par la violence, nous comprenons que le sentiment d'humanité prend le dessus et qu'au nom de la communauté afro-américaine, elle exprime leur interdiction de pouvoir aimer tout le monde et partager leur bonheur au même titre que tout autre citoyen, et de ne pas se priver et aimer librement. Lorsqu'elle dit « enlever toutes les barrières qui nous séparent », la volonté d'un monde égal et uni semble claire et nette.
I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and understand.
J'aimerais que tu te mettes à ma place. Tu seras convaincu que chaque homme devrait être libre. Ces derniers mots sont, pour ma part, les plus lourds de sens de la chanson. Elle met simplement et clairement en lumière la stigmatisation subie en invitant à y réfléchir en se mettant à la place des personnes discriminées. Nina Simone y exprime l'idée que ce que subit sa communauté est inhumain et que si les gens s'y intéressent et supposent de vivre dans les mêmes conditions, ils se rendraient compte de la privation de leur liberté et les réclameraient. Et finalement, la chanteuse finit le titre sur ces paroles. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd say, eh bien, je voudrais être comme un oiseau dans le ciel. Si je trouve comment je pourrais voler, oh, je m'envolerai vers le soleil et regarderai la mer. Alors je chanterai, parce que je saurai ce que ça fait d'être libre. Une manière très poétique et imagée de finir cette chanson, avec la métaphore d'un oiseau prenant le large, libre. Nina Simone s'identifie donc à cet oiseau pour illustrer le sentiment qu'elle veut gagner et que l'ensemble des Afro-Américains souhaitent gagner face aux conditions de discrimination et de ségrégation. Mais elle explique bien que pour s'envoler tel un oiseau, il faut qu'elle trouve comment le faire. Ce qui appuie bien l'idée que pour le moment, ça n'est pas possible. Et finalement, est-ce que l'on ne pourrait pas interpréter cette musique comme un appel à l'aide pour demander à la prise de conscience de tous et donc de lutter pour de réels changements? Mais aussi à la fin, lorsqu'elle dit qu'elle saurait chanter parce qu'elle saurait ce que ça fait d'être libre, pourrions-nous l'interpréter comme un clin d'œil à sa carrière? Car Nina Simone fait partie des Afro-Américains ayant réussi à partir en Europe en réussissant avec leur musique. Donc, se considère-t-elle libre, tel un oiseau qui a réussi à s'envoler, et donc s'exprime plus pour les citoyens du territoire américain qui vivent ces discriminations de manière sévère au quotidien. En effet, Nina Simone a réussi à se libérer en chantant, mais à travers « I wish I know how it will feel to be free », elle le souhaite pour tous et fait véhiculer ce message d'espoir et de paix d'un jour meilleur. Pour conclure cet épisode, nous pouvons donc retenir du titre I wish I knew how it would feel to be free, je vais y arriver, qu'il s'agit là d'une chanson de protestation où Nina Simone nous parle de son rêve de liberté, son rêve d'être égale aux citoyens blancs et de pouvoir agir sans risquer quelque chose. Ce que je trouve personnellement marquant dans cette chanson, c'est l'illusion de si l'on se repose seulement sur la mélodie, en effet, on ne porte pas forcément attention aux paroles et la musique, elle est super entraînante, joyeuse et nous donne envie de rêver, d'aller de l'avant. Et enfin, est-ce que c'est pas un peu le but du message de rêver justement d'une vie meilleure? Mais sauf que quand on se penche sur les paroles, le petit air chantant devient lourd par ces paroles. Du moins, moi c'est comme ça que j'ai vécu cette musique, avec des paroles finalement semblables à de la tristesse face à un monde où les inégalités persistent et où des humains sont privés de leur liberté pour des pensées racistes. Et je vois un peu l'interprétation comme un cri, comme si le message était en elle, bouillait et avait besoin de sortir pour demander paix et liberté et de la comprendre, se mettre à sa place et de se demander qu'est-ce que ça serait d'être libre. Il est intéressant d'ouvrir la fin de l'analyse sur la tragique mort du pasteur Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968 à Memphis par James Earl Ray, un militant ségrégationniste américain. Cet assassinat, il a marqué Nina Simone qui a sorti la chanson « Why the King of Love is Dead » le 7 avril 1968, lors d'un concert à New York qu'elle lui a dédié dans son intégralité. Ainsi, nous pouvons affirmer la grandeur de Nina Simone et sa contribution à la lutte raciale aux États-Unis à travers ses paroles et ses chansons. Cette période historique est très importante à comprendre et à étudier car elle a débuté bien avant, mais surtout, elle persiste encore aujourd'hui. En effet, bien que les lois n'existent pas à proprement parler aux États-Unis, le racisme y est encore très implanté avec une très grande communauté de suprémacistes blancs et des membres républicains qui ne cachent pas leurs convictions. Je citerai évidemment le meurtre de George Floyd, tué injustement le 25 mai 2020 par un policier américain à Minneapolis, alors que c'était vraiment rien passé. Et des cas comme celui de George Floyd, il y en a malheureusement beaucoup trop régulièrement. Vous connaissez sûrement le mouvement Black Lives Matter, né en 2013, qui encore aujourd'hui se bat au quotidien pour des inégalités persistantes, des accusations à tort de personnes noires, des meurtres et beaucoup d'autres faits. Bon, allez, je dois finir, mais il y a tant de choses à dire que c'est vraiment compliqué de conclure. Mais je vous conseille juste de visionner quelques films traitant de ce sujet de diverses manières. Et c'est pour ça que je vous conseille, alors en premier, La couleur des sentiments, sorti en 2011, Les figures de l'ombre, sorti en 2016, Green Book, sorti en 2018, ou encore Black Landsman, sorti en 2018. Bon, et là, c'est vraiment le cœur qui parle, et je pourrais placer ce film pour n'importe quel sujet, je pense, sur l'histoire des États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. Mais aussi dans Forrest Gump, le sujet est traité dans quelques scènes, donc c'est assez intéressant. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce 7e épisode de Chansons d'Histoire, en espérant que vous ayez apprécié le moment. Merci pour votre écoute.